Bien, nous allons aborder maintenant la question de la collaboration entre chercheurs et praticiens. Catherine Perrotin, dans son introduction, a indiqué la demande, enfin précisé la demande ou l'appel des praticiens aux chercheurs. Le comité de pilotage a proposé de centrer la question de la collaboration entre chercheurs et praticiens sur un point qui est celui du lieu. Un Léa, c'est un lieu où on enseigne et où on cherche. Et dans cette direction d'acception du terme Léa, lieu où on enseigne, où on cherche, cette question peut être travaillée de différentes façons. On a demandé à Frédéric Tortera, qui est le correspondant IFE du Léa Nucera, qui est un Léa de deuxième année, qui est arrivé dans le réseau donc l'an dernier, de présenter le lieu d'éducation en tant que lieu afin de travailler cette question de collaboration à travers ce fil conducteur qui est le lieu. Voilà.
Merci beaucoup à l'ensemble des organisateurs, à l'IFE bien entendu, à la communauté des Léa, du point de vue notamment de l'ingénierie, de l'encadrement, de sa publicité, de la communication. Merci à Serge Quilliot qui, pour le Léa Nucera, est notre référent IFE, et pas seulement, un appui de chaque jour, un soutien de chaque semaine pour cette initiative. En ce qui me concerne, je vais vous présenter, bien sûr, à travers le Léa Nucera, que j'ai le plaisir aujourd'hui de décrire à propos de cette journée de séminaire. Mais je représente surtout, donc, évidemment, un collectif de travail avec moi, mon correspondant Léa, et des équipes dont je vais vous parler au fur et à mesure. Je vais surtout vous parler d'un cas concret, puisque nous sommes aussi dans la perspective d'une co-formation entre nous, me semble-t-il, où précisément, comme cela vient d'être fait, il s'agit de mutualiser les domaines d'expérience qui sont les nôtres avec les sensibilités diverses, pas forcément universitarisées du reste, hein, puisque nous sommes dans le cadre ici d'une collaboration entre des chercheurs et des praticiens qui forment l'une des spécificités, à mon sens, des traits récurrents, hein, de cette grande initiative que sont les Léa. À travers ce cas concret, il s'agit de parler, pour moi, de cette collaboration entre différents domaines d'exercice et différents partenaires et donc catégories de personnel. Alors, ce qui est intéressant de noter, à mon sens, hein, avec la petite expérience Léa que j'ai, eh bien, c'est que précisément, nous sommes bien au-delà avec un Léa des questions de catégorie de personnel et nous sommes d'abord de façon horizontale, comme vous le disiez il y a quelques instants, eh bien, dans une dynamique de recherche collaborative. Alors, recherche collaborative, pour ce qui concerne le Léa Nucera, nous avons été assez rapidement dans ce cadre, dans cet environnement de travail, puisque j'ai le plaisir de représenter donc, comme je le disais, un collectif de travail avec un laboratoire, 5 personnes impliquées directement dans le Léa au sein de ce laboratoire, la directrice Nicole Biagioli, Serge Quilliot fait aussi partie du laboratoire, des collègues en sciences et l'éducation, en didactique des mathématiques. Pour ma part, j'essaye d'être acquisitionniste. Je m'intéresse aussi au rapport des élèves aux apprentissages. Depuis un certain nombre d'années, nous travaillons avec 12 professeurs des écoles qui sont nos expérimentateurs, praticiens, et donc nos collaborateurs de premier plan pour l'initiative du Léa. Nous travaillons également avec 6 associations, de façon déclarée, puisque dans le réseau associatif, comme le nom l'indique, on est véritablement dans un esprit de réseau, et donc il y a des intrications entre différents domaines d'intervention, d'animation et d'éducation. Les associations, comme vous le savez, sur des zones comme celle-ci, qui est une zone urbaine sensible, eh bien, sont extrêmement actives. Et ce sont des acteurs de premier plan. Nous travaillons également avec une circonscription, avec donc une IEN, inspectrice éducation nationale, 2 conseillers pédagogiques, un conseiller pédagogique associé au titre de l'informatique. L'ESPE de l'Académie de Nice nous apporte un appui conséquent en termes de lisibilité de l'initiative, mais aussi des démarches partenariales que nous menons envers les autres circonscriptions. Et très aimablement, l'ESPE de Nice nous autorise, à travers son équipe de direction, à travailler en collaboration avec un ingénieur informatique, Erwan Philippe, qui est responsable du serveur qui nous sert au premier plan de mutualisation entre les différents partenaires. J'en reparlerai. Et nous travaillons également avec les collègues Cardi, deux collègues Cardi de l'Académie, ainsi qu'un principal de collège, puisque Léa regroupe une dizaine d'établissements scolaires. Pour ce qui relève des institutions scolaires, il y a donc un collège, le collège Nucera, qui est au centre des quartiers qui nous occupent, cinq écoles maternelles et quatre écoles élémentaires. Donc cela forme pas mal de monde, qui plus est, nous avons des liens, indirects avec de nombreux autres partenaires, notamment à l'étranger. Nous avions la visite il y a 2 semaines d'un collègue de l'Université du Michigan, Kyle Greenwald, qui nous a beaucoup aidé pour comprendre les intrications entre les différents niveaux de responsabilité, puisque bien sûr ces initiatives, je dirais bien sûr, ne sont pas uniquement l'exclusivité de la France. Cela a été expérimenté au Canada, comme cela a été dit, mais aussi aux États-Unis, à Boston notamment. J'aurai peut-être l'occasion d'en dire quelques mots. Donc je vais vous dire de façon très concrète que, à mon sens, ce type de recherche collaborative, c'est d'abord une démarche commune, puisque nous avons là un ensemble de possibilités de formation, de co-formation et une prise en compte indispensable des possibilités d'autodidaxie des personnels qui, le nez dans le guidon, comme vous le savez, je parle des expérimentateurs, mais pas seulement, je crois que nous sommes à peu près tous concernés, eh bien, essayent justement d'avoir le maximum de pratiques documentées. Et ce qui est intéressant, à mon avis, avec cette démarche commune, c'est que nous travaillons sans cesse entre des pratiques déclarées, des pratiques effectives et des pratiques variablement documentées, ce qui finalement donne différents niveaux de réflexion qu'il est à mon sens intéressant de questionner. Je vais vous parler brièvement de ce lien à travers ce qu'il implique en termes de combinaison de ressources et d'écrit de travail, parce qu'à mon sens, c'est ce que j'en ai retenu pour cette première année d'exercice, et une valorisation également des parts d'initiative, dont je vous parlerai également de façon exemplifiée. Alors, il s'agit pour moi d'une démarche commune, enfin pour moi, pour notre collectif de travail, je retranscris ici les témoignages que j'ai pu en relever. La démarche commune se fait évidemment, comme le disait Serge Quilliou à l'instant, autour d'un lieu en particulier. Alors, pour ce qui relève de l'Académie, il y a un certain nombre de zones urbaines sensibles, il y a des ZEP, comme il y en avait dans toutes les académies, et 2 REP, et notamment 2 REP plus depuis cette année, cette rentrée, une REP plus qui se situe à Toulon, au collège Vallon, et qui fonctionne pour le moment avec différents types de difficultés. Bon, le lieu est très très difficile, et le REP plus qui coïncide précisément avec la zone éclair Nucera, sur laquelle nous avons implanté le Léa l'année dernière. Donc finalement, en termes de calendrier de travail, les choses sont plutôt bien tombées, parce qu'il y a, je ne vous le cache pas, finalement, une institutionnalisation du Léa, de fait, puisque le REP+, comme vous le savez sans doute, est un réseau d'éducation prioritaire qui doit établir des liens effectifs, concrets, déterminés dans le calendrier de travail annuel avec la recherche, et en tous les cas, des éléments de co-formation qui sont valorisés au titre de différentes journées de travail et puis d'une décharge horaire spécifique. Alors, outre ces zonages, alors pardon de parler de zonage, même si pour ma part je déteste cela, hein, mais il y a différents niveaux donc, en ce qui concerne le Léa, et c'est pour ça qu'on parle à mon sens de façon tout à fait appropriée d'un multipartenariat. Outre le fait qu'il y a là une zone éclair à la base et de façon historique, qu'il y a aussi une zone urbaine sensible du point de vue donc du point de vue politique, on va dire. Il y a aussi un contrat de ville qui porte spécifiquement sur cette zone que j'ai placée en rouge ici. Ce CUX, comme on l'appelle, ce contrat de ville porte spécifiquement sur Nice-Est. Alors cela semble pas trop excentré par rapport à ce qui constitue le cœur de la ville de Nice, mais finalement avec le terrain lui-même, on s'aperçoit qu'il faut quand même prendre le tramway pour aller de cette zone au centre, ou alors marcher longtemps. il y a non pas un sentiment de relégation de la part de ces populations, mais il y a quand même une sensibilité très particulière au lieu. Concrètement, c'est un lieu qui quand même est à l'écart de ce qui se fait au niveau du centre-ville. Donc on a finalement ici des caractéristiques principales d'initiatives politiques qui portent sur des zones urbaines sensibles avec un contrat en termes d'aménagement du territoire et de politique éducative qui sont quand même très particuliers. Tout est parti donc du lieu et je passe par quelques photographies puisque les éléments factuels figureront de toute façon ou figurent déjà sur les différents sites que Réjane Monon-Saldi nous évoquait tout à l'heure. Eh bien, vous voyez là une association qui s'appelle Épilogue. Alors, c'est loin d'en être un, puisque cette association, justement, est très, très active sur les quartiers. Cette zone urbaine sensible regroupe précisément, et elle coïncide presque intégralement avec la zone éclair, en tous les cas maintenant avec le REP+, c'est certain, eh bien, avec un ensemble de quartiers qu'on appelle Saint-Charles, Montgros, Bon Voyage, sur lesquels rayonne cette association. Alors, pourquoi nous sommes partis de là? C'est parce que cette association travaillait beaucoup avec les institutions scolaires, les écoles, et notamment la bibliothèque de quartier Pasteur. Donc, il s'agissait là d'un lieu qui représentait l'opportunité d'un partenariat effectif entre différents types d'institutions. Et je ne vous cache pas que les différents dialogues que nous avons eus avec nos collègues Marie-Ange Mulat et Stéphanette Flandy, qui sont très actives au sein de l'association, nous a permis de rendre davantage lisibles les collaborations effectives que l'on pouvait mener avec les familles. Alors, pour les établissements, il y en a donc un certain nombre. Je vous les déclinais tout à l'heure. Il y aura un petit tableau récapitulatif. Vous aurez par ailleurs le diaporama. Donc, les établissements sont dans des lieux, des petits lieux, puisque à l'intérieur de ce lieu, il y a des quartiers qui ne se connaissent pas forcément, avec quelquefois des tensions entre les quartiers. D'ailleurs, cet établissement, on a fait les frais il n'y a pas très très longtemps, au mois de juin. Là, il s'agit de l'école Aimé Césaire, sur laquelle nous travaillons avec des moyennes et des grandes sections. Et maintenant, nous travaillions l'année dernière avec des moyennes et des grandes sections. Et là, nous sommes avec des grandes sections CP et la même expérimentatrice au titre d'un décloisonnement. Ce type d'établissement permet précisément, l'épilogue n'étant pas très très loin, de permettre les immixtions entre les différentes initiatives des partenaires. Concrètement, ce sont des gens qui se voient souvent. Nous avons des professeurs des écoles et directrices d'école et des directeurs d'école qui connaissent bien les associations et vice-versa. Et c'est encore plus le cas avec une école que vous ne voyez pas ici, mais qui est bel et bien là. Elle est précisément au pied de l'immeuble. C'est un autre quartier qui s'appelle Éliseron, qui est davantage enclavé, c'est-à-dire que c'est le bout du bout du lieu. Nous sommes au quartier d'Éliseron avec une proportion de primo-arrivants extrêmement importante en termes de population. Et sous les petites arcades, pas très très loin de l'antenne parabolique, vous avez l'école qui s'appelle Aquarelle et qui est une école maternelle. L'association Épilogue travaille depuis de nombreuses années avec cette école qui regroupe surtout des moyennes sections, un petit peu moins de grandes sections, et qui ensuite, pour ce qui relève du passage vers les CP, les cours préparatoires, rayonne sur deux quartiers différents. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que notre expérimentateur Olivier Perrault, ici, professeur des écoles depuis quelques années sur place, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les familles, parfaitement les liens effectifs entre l'association et son école, et le tissu urbain dans lequel il exerce. Donc là, vous avez une équipe qui est particulièrement motivée. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments où, à l'intérieur de cette cité, là, il fait beau, mais ça peut être aussi assez animé, certains soirs. Donc nous sommes ici dans une zone urbaine sensible, de toute évidence. Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes. Vous avez là 5,5% de la population de Nice qui est quand même concentrée sur Nice-Est, avec pour le lieu un ensemble de personnes qui, représentent à peu près la moitié de cette population. Donc de ce fait, vous avez là, pour ainsi dire, du point de vue de la recherche, y compris pour nos collègues géographes et sociologues, une représentativité, disons, de l'échantillon, pardon de m'exprimer ainsi, disons, ce sont les termes consacrés. Alors, vous voyez, la population de la zone urbaine sensible, hein, qui coïncide à peu près avec notre lieu Louis-Nucera, eh bien, c'est 19 244 personnes, donc sur la commune de Nice, qui en regroupe 347 000 à peu près. Donc, nous sommes aux alentours de 5%. D'autres chiffres, et je m'arrêterai là pour les chiffres, c'est la part des ménages imposés. Les chiffres sont de 2009. Vous voyez que sur les US, il y a 44% à peu près de ménages qui sont imposés, alors que la moyenne est plutôt de l'ordre de 60% sur l'ensemble de la cité urbaine. Voilà pourquoi, parmi nos partenaires, nous avons très très vite travaillé avec les représentants de la métropole Nice-Côte d'Azur, Sabine Grain notamment. Je vous montrerai un petit courriel tout à l'heure à titre d'exemplification, mais c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup pour faire les liens avec les associations auxquelles nous n'avons pas encore accès, mais dont nous savons qu'elles ont un appui très fort pour l'accompagnement éducatif, l'accueil des primo-arrivants et par ailleurs ce qui relève de l'aide à la parentalité. Donc ce sont des axes forts, hein, et hier matin d'ailleurs, Sabine Grain défendait le Léa Louis-Nucera auprès de l'adjointe au préfet, en charge de l'éducation, ainsi que ses différents partenaires de la métropole. Donc nous avons là, non pas une politisation de la démarche, mais une dimension politique du Léa qui s'est révélée, disons, un enjeu immédiat, hein, en ce qui nous concerne. Alors cette initiative, a déjà été documentée. Hein, bien sûr, il y a nos collègues canadiens qui ont, je les citerai par ailleurs, mais qui ont travaillé sur ces points, sur cette façon d'essayer d'établir un partenariat durable. Catherine Snow, par exemple, à l'université de Harvard, a proposé ce type d'initiative il y a un certain nombre d'années. Catherine Snow est acquisitionniste, c'est pour ça que je connais ses travaux, mais curieusement, je me suis aperçu en la lisant qu'elle avait absolument rencontrer les mêmes écueils pour un partenariat durable. Donc vous avez déjà lu ce qui est derrière moi, donc je ne vais pas le dire. Mais bien sûr, cette négociation est celle de tous les instants. Hein, je ne vais pas redire ce que vous avez dit précédemment. Hein, on est toujours obligé, avec des issues évidemment incertaines, de négocier la part de collaboration qui est la nôtre. Mais je pense que c'est la spécificité de ce type d'initiative, et c'est aussi comme ça, sans doute, que l'on doit travailler. L'officialisation de la zone éclair, je vous en parlais, donc elle est là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avant nous avions une zone éclair qui passait à la trappe l'une des écoles avec lesquelles nous travaillons, hein, grâce à laquelle d'ailleurs nous avons un accès à un autre quartier, disons, de cette zone sensible. Mais là, le REP plus a finalement rectifié le cours des choses, puisqu'elle est réintégrée. Il s'agit de l'école maternelle et de l'école élémentaire Saint-Charles. Elle est réintégrée. Et de ce fait, grâce à toutes ces actions, et de façon inespérée, nous avons, alors que nous travaillions l'année dernière avec un effectif de 237 élèves, nous en sommes cette année, malgré une rentrée particulièrement douloureuse pour à peu près tous, hein, nous avons maintenant à peu près 221 ou 222 élèves en termes de suivi. C'est-à-dire que de l'année précédente à cette deuxième session, nous avons sauvegardé, en termes de suivi des cohortes, 93,25% des effectifs. En ce qui me concerne, je m'attendais à beaucoup moins, hein, parce que les difficultés sont énormes. Imaginez bien que, par exemple, pour un cas concret, vous suivez les élèves de Madame Intel avec elle, grâce à elle, sur une année. Donc vous mettez en place une co-formation, vous mettez en place une expérimentation. Cette personne, il y a de bonnes chances qu'elle garde ce niveau l'année d'après, ou alors, mettons qu'il y ait, c'est le cas, hein, 11 moyennes sections et 14 grandes sections. Eh bien ensuite, que faites-vous de ces élèves l'année d'après, hein, avec qui travaillez-vous? Si les personnes qui ont les élèves ne veulent pas forcément travailler avec le Léa, ce qui a été le cas, bien sûr, il faut trouver des solutions. Hein. Donc là, sans un partenariat entre toutes les idées de chacun, entre toutes les initiatives, le Léa est quasiment mort-né, hein, autant vous le dire tout de suite. Donc grâce à l'action de la circonscription, grâce au collège aussi, qui nous accueille pour toutes nos réunions à travers les possibilités laissées par son principal adjoint, eh bien nous avons pu nous concerter de multiples fois depuis le début de l'année. Et là, je crois que l'effectif est stable, hein, ce qui, à cette période de l'année, finalement, est un bon point, hein, je pense. Donc là, vous avez les effectifs, hein, avec lesquels nous travaillons. Il y a 7 classes. Et l'année dernière, il y avait 7 classes de maternelle et 5 classes d'élémentaire. Cette année, certains élèves étant par exemple, alors outre ces cordes qui sont donc montées, hein, bien entendu, donc nous avons la possibilité de les suivre. Et pour ce qui relève des élèves de CM2 sur une école qui s'appelle Bon Voyage, 12 élèves sont passés en 6e. Eh bien, ce sont maintenant deux expérimentateurs du collège qui les suivent dans le cadre d'un effectif. Alors, je ne vous cache pas là aussi que les regrouper n'a pas été facile, puisqu'ils étaient de deux établissements. Et dans le même temps, bon, évidemment, il a fallu expliquer la démarche aux familles. Hein. Donc là, sans une collaboration effective, ça n'est évidemment pas possible. Alors, je vais aller rapidement. Je ne sais pas de quel temps je dispose exactement. D'accord, bon, 5 minutes. Alors, les initiatives de cet ordre dont je vous parlais donc, sont déjà un peu documentées pour les Léas. Alors, il y a des spécificités françaises. Hein, vous commencez, j'imagine, vous avez commencé à en discuter. Pour les nouveaux entrants, je pense que vous vous en êtes au moins, vous en êtes rendu compte assez rapidement. Nos collègues canadiens Fortin, Boudreau et Grondin, par exemple, ont beaucoup travaillé sur cette initiative. Je vous donne ces références puisque beaucoup de ressources figurent déjà sur le web et je pense que, en plus, ce sont des gens qui sont dans la concrétude absolue, bien documentés par ailleurs. Donc, c'est-à-dire que vous aurez à la fois des cas d'école, si je puis me permettre, et par ailleurs, eh bien, une belle documentation à l'appui. Bon, en termes de recherche, il y a de nombreuses choses à dire. Simplement, pour ce qui relève du concret de ce type de collaboration, je dirais que cette collaboration passe également et surtout peut-être par des documents. Alors, ça passe évidemment par des personnes et par un lieu, je viens de le dire, mais ça passe aussi, très vite, nous nous en sommes rendus compte, par des écrits de travail. Bien sûr, il y a les écrits de travail familiers, hein, des équipes pédagogiques, cela va de soi. Là, par exemple, il s'agit d'un document d'accompagnement. Ici, d'autres types de documents qui relèvent plutôt des équipes d'encadrement, mais auxquelles, évidemment, tout le monde a accès. Hein. Et là, par exemple, j'ai trouvé un bel extrait qui parle justement de la valorisation des ateliers pour les écoles maternelles et qui parle de la pédagogie Freinet. Il s'agit du rapport de l'inspection générale de 2011 sur la maternelle, qui est en ligne et que j'ai lu pour ma part au moins deux fois, parce que c'est une petite merveille. Ma parole est tout à fait libre, hein, je le dis en toute simplicité, parce qu'il y a de nombreuses pistes de travail, y compris pour les équipes d'encadrement, et bien entendu pour les dialogues qui s'établissent entre les équipes d'encadrement, de circonscription, d'établissement du second degré, et les collègues que je représente au sein du laboratoire. Parce que, bon, évidemment, je ne vous cache pas qu'il faut, du côté du laboratoire quand même, une certaine connaissance du secteur, des questions éducatives pour quand même s'immiscer dans un Léa, ça va de soi. Alors, pour parmi les documents de travail, les calendriers, les bulletins de liaison, et bien sûr les listings d'effectifs. Alors, par exemple, voilà quel frimousse cela prend pour ce qui relève du Léa Nucera. Vous avez dans la première colonne les écoles et les sections. Alors, par exemple, vous avez deux écoles ici qui sont représentées, même trois. Bon Voyage 1, Bon Voyage 2 et Aquarelle, dont vous avez vu la photographie tout à l'heure. Outre les élèves, le fait qu'il y ait plusieurs professeurs impliqués, bon, c'est important, il faut voir absolument tout le monde, hein, même si les collègues ne sont pas forcément les expérimentateurs. Donc vous imaginez bien que ça demande un temps considérable, hein, sur le terrain. Les quartiers ne sont pas forcément les mêmes et cela se voit surtout avec les familles. Il y a certaines familles qui ne se parlent pas et des quartiers entiers qui, quelquefois, disons, sont assez tendus les uns vis-à-vis des autres certains jours. Et donc cela se répercute forcément sur les conditions d'exercice, hein, des collègues. Et vous avez donc des élèves sur lesquels précisément différents types d'acteurs, avec lesquels ou auprès desquels différents types d'acteurs interviennent. Donc voilà, voyez, vous avez par exemple des suivis d'une association, vous avez aussi un suivi notamment au titre de l'aide à la parentalité, mais aussi du suivi éducatif par une autre équipe qui s'appelle Agora, qui travaille bien avec nous, hein, et qui nous a transmis très très vite ce qui est finalement assez peu commun, me semble-t-il, eh bien, ces listings d'intervention. Hein. Donc là, il y a un dialogue qui s'établit de ce côté-là. Et puis après, on essaye également d'identifier les différentes assiduités, hein, de l'enfant, pour savoir exactement avec quels interlocuteurs il a au quotidien, Cela nous permet d'autant plus d'aller toucher les familles. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, mais ce n'est pas du tout un exemple que je donne à titre... je le donne à titre illustratif. Je suis venu avec mes propres enfants auprès des associations et des familles. Ça facilite les choses. J'ai d'ailleurs gagné des sets de tables parce que mon petit ayant gagné au loto, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on échange des informations, on échange des courriers et surtout, on entend les familles parler, on est avec elles, auprès d'elles. Et puis, là sont les questions que nous traitons, notamment en termes de recherche et d'éducation. Sur le plan strictement éducatif et pédagogique. Alors, cela passe également par des scénarii pédagogiques. Alors ça, c'est un scénario qui est concerté avec tous les expérimentateurs, mais aussi les associations, deux associations. C'est-à-dire que les associations ont également accès, grâce à la plateforme laissée par l'ESPE de Nice, eh bien, aux documents de travail qui sont les nôtres. Donc, cela signifie que, pour ce qui relève notamment des documents évaluatifs, procéduraux, nous allons dire, eh bien, tous ces documents de travail peuvent être mutualisés. Alors, nous avons par exemple trouvé intéressant de savoir ce qu'il en était des retours d'expérience. Là, par exemple, vous avez, parmi les multiples documents que nous avons manipulés, eh bien, un tableau qui a été écrit in situ dans l'atelier, c'est-à-dire que la collègue professeure des écoles, à ce moment-là, écrivait ce qui se passait dans le cadre de l'expérimentation qui était filmée. Nous avons un certain nombre d'heures de film et qui donnait ses observations. Après, il y a eu un autre tableau que nous avons négocié ensemble au campus Georges V de l'Université de Nice, de manière à savoir quels étaient les critères que nous pouvions envisager au titre de la recherche. Alors, rapidement maintenant, deux minutes, je pense, en ce qui me concerne, et je crois qu'au sein de notre équipe, c'est un point de vue largement partagé, que le Léa est aussi l'occasion de valoriser toutes les parts d'initiative de manière à ce qu'on accroisse de façon significative la part d'initiative des enfants. Donc là, vous voyez, par exemple, nous avons travaillé l'an dernier sur la catégorisation, comment les enfants de moyenne et de grande section, par exemple, parce que nous avons donc aussi une autre cohorte en cycle 3, eh bien, établissaient des domaines d'équivalence entre différents types d'objets et verbalisaient ces équivalences, donc les similitudes et les dissemblances. Donc voilà le travail qui est largement documenté par la recherche en acquisition, mais là, nous l'avions in situ grâce à ce lieu. Les parts d'initiative, bien sûr, des professeurs des écoles, pour ce qui nous concerne. Là, par exemple, une dictée à l'adulte peut paraître un document de travail, un affichage anodin, disons régulier, familier, mais évidemment, il permet d'avoir une mémoire de la vie de classe et une mémoire interdiscursive qui ensuite se mutualise auprès des associations. Les associations disant « Ah bah tiens, mais on fait la même chose, nous, en catégorisant avec des caddies. » Et donc, nous avons aussi donc des partenariats de ce type. L'équipe dont je vous ai parlé, alors cela passe également par des carnets de bord. Alors, c'est peut-être une écriture un peu diarique, un peu, journalière, mais qui donne au moins, du point de vue factuel, eh bien, la part d'initiative de chacun. Et je pense qu'il est très important, je pense notamment aux nouveaux entrants, eh bien, très important de assez rapidement remplir son carnet de bord de manière au moins à valoriser la part d'initiative de chacun. Et vous voyez, parmi les documents de travail, vous avez les courriers électroniques. Là, c'est la représentante de la métropole qui invite les associations l'an dernier cette année, en début d'année, donc à travailler aux côtés des professeurs des écoles. Et donc, c'est par ça que je finirai. Voilà un document de travail négocié complètement. Il est biffé, déconstruit, bousillé dans tous les sens. Et je pense que c'est effectivement de cette façon qu'un Léa peut travailler au quotidien. Voilà.
Merci.